La chaîne 3 de la radio algérienne vous propose.
Football Magazine.
Du foot, plein les oreilles.
Madame, monsieur, bonjour. 11h05 sur Alger Chaîne 3. On est ensemble jusqu'à midi avec un retour sur la victoire de l'équipe nationale face au Zimbabwe. 3-1. Un match dominé de la tête et des épaules par notre équipe nationale. Mais au-delà du résultat, ce qu'on retiendra, eh bien, pour la première fois, l'équipe a joué en 3-5-2. Retenons également que l'équipe a plié le match en première mi-temps. On va revenir sur les changements qui sont intervenus. C'est une équipe new look hein, qui a complètement changé tant en défense qu'au milieu et en attaque. Pour analyser cette rencontre, deux entraîneurs seront avec nous. Dileli Behloul, l'entraîneur de l'USM Khadja qui a quitté l'USM Khadja. Et on aura également Mourad Wardi. On reviendra sur l'équipe nationale Aprim qui joue cet après-midi à 14h heure algérienne contre l'Égypte. Elle prépare la Coupe arabe dont l'Algérie est détentrice du trophée. On retrouvera Ali Hamouche sur cette rencontre et cette confrontation. Il était présent à la conférence de presse de Majid Bouguerra. Ça y est, on connaît l'affiche. Nigeria, République démocratique du Congo. Telle est l'affiche de la finale qui verra une de ces deux nations disputer le tournoi intercontinental. Je rappelle, tournoi qualificatif pour la phase finale de la Coupe du Monde. Le Cameroun reste sur le carreau, battu par la RDC dans le temps additionnel. Beaucoup demandent la démission de Samuel Eto'o Fils, le président de la Fédération camerounaise de football. Le championnat de Ligue 1, on parlera du Mouloudia Doran avec un nom à retenir. C'est Léonard Agoun, le gardien de but du MCO, eh bien, il symbolise la bonne forme actuellement du Mouloudia Doran. La JS Saoura, qui se situe dans la partie haute du championnat, eh bien, a décidé de se séparer. C'est vrai, dans le communiqué, c'est dit à l'amiable, on aura toutes les explications avec l'entraîneur Lotfi Boudra. Et on terminera avec l'équipe d'Al Bayad, qui, avec son nouvel entraîneur, Mohamed Lassadi, on a toutes les conditions pour travailler du côté d'Al Bayad. Il sera également avec nous en direct. Voilà, le décor de l'émission est planté. Sans plus tarder, on va retrouver tout d'abord Dileli Behloul. Dileli, bonjour.
Bonjour maman, bonjour à nos auditeurs.
Merci d'être avec nous en direct. Dileli Behloul, d'abord félicitations pour votre diplôme, UEFA Pro, je le rappelle.
Merci beaucoup, merci.
Voilà, et juste en un mot, vous confirmez, vous avez quitté Khadja?
Je confirme, oui, depuis quelques jours, j'ai présenté ma démission à la direction, car la démission a été acceptée, donc officiellement, je ne suis plus entraîneur de l'USM.
Je le dis, et je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de compliments en principe, c'est ce qu'on dit, mais je peux vous dire, sur ce que j'ai vu du côté de Khadja, ou sur ce qu'on a vu, parce que tout le monde l'a vu, et d'ailleurs, ça revenait dans tous les commentaires, c'est une des équipes de la Ligue 1 qui propose du jeu. Et on risque de vous regretter à ce niveau-là.
Voilà. Je tiens à le dire,
non, mais c'est sur le travail que vous avez réalisé. Même, je dis toujours, hein, un match de football, on n'a pas que le résultat, il y a également le contenu du match. On peut perdre un match, ça arrive, hein. Et il y a le contenu des matchs, et le contenu était intéressant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire concernant Khadja. Alors, on va revenir au match de l'équipe nationale, vous l'avez suivi hier, victoire 3-1 de notre équipe nationale. Avant de vous retrouver, je vais vous proposer d'écouter l'entraîneur Petković qui revient sur cette rencontre.
Amichevole che in certi momenti anche ha fatto piacere.
Très clairement un match amical que pendant des moments quand même a donné de la satisfaction. Je suis très, très satisfait du fait que j'ai pu donner des minutes de jeu à des joueurs qui n'étaient pas beaucoup employés. On a cherché de jouer dans diverses manières, mais tout le temps avec les mêmes principes de jeu. On a fait le match qu'il fallait faire, on aurait pu peut-être marquer beaucoup plus de buts. Ce qui était important, et je suis content de ça, qu'on a gagné le match et surtout que très probablement on est sorti sans des joueurs blessés. Et maintenant on a 4 jours pour se reposer, pour reprendre le souffle. Et puis on a un match très important avec une équipe de notre style.
4 jours de repos et dopo ci aspetta un'altra partita molto importante per la crescita della squadra.
Voilà, sur le match, sur la victoire, sur le comportement des joueurs. Alors, vous avez vu le match. Pour la première fois, tout d'abord, l'équipe nationale joue avec en 3-5-2. C'est la première fois que Petkovic utilise ou joue avec ce système de jeu.
Ben, c'était une occasion, je pense, c'était une occasion d'essayer des choses parce que c'est des matchs amicaux qui préparent la Coupe. La Coupe du Monde, donc c'est vrai qu'il faut se donner aussi d'autres possibilités, d'autres options. Là, c'était intéressant. Je pense que le côté gauche, on a vu, avec Aït Nouri et puis Hajim, ça a été extra. Je pense que vous m'entendez?
Oui, on vous entend, on vous suit hein, tranquillement.
Ouais, donc je disais que ça a été extra. Après, l'avantage, on va dire, c'est qu'on s'est créé beaucoup d'occasions, on a eu beaucoup de facilités. Dû à quoi? Dû au système peut-être aussi. Donc c'est quelque chose à exploiter dans le futur. Après l'entente offensive entre Bounedjah et Amoura, ben, elle a été extra. Maza, il était dans un super jour. Le retour, on va dire, de celui qu'on critique tout le temps, Zemri, il a été aussi dans son match.
Bennacer
aussi. Ça c'est une satisfaction. Et c'est un des joueurs qui va nous faire énormément de bien dans le futur avec son expérience, avec son intelligence. Je pense qu'on est sur le bon chemin et c'est bien d'avoir marqué des buts.
Alors, le système, il a expérimenté face au Zimbabwe. Je dis avec une équipe quasiment remaniée. Hein. On avait Hajem côté gauche. On a vu le point fort, c'était de notre équipe nationale, il était le côté gauche. Justement, ce type de système, est-ce qu'il peut le reconduire? Parce que bon, il l'a essayé avec des joueurs. Je rappelle, Mandy était absent. Ben Sebaini, bon, il avait déclaré forfait pour ce stage. Touga avait déclaré forfait pour ce stage. Ça nous a permis de voir, par exemple, un joueur comme Blade.
Déjà, je pense que si on a essayé ce système, c'est parce que je pense qu'on a des joueurs pour. Ça, c'est déjà un point positif. Après, c'est vrai que est-ce que dans le futur, on aura l'occasion de le jouer ou pas, surtout, ça dépendra de l'adversaire. Mais je pense que c'est des joueurs professionnels et c'est le sélectionneur à valider ce système sur ce match-là. Hier, donc, il était sûr de ses joueurs. Moi, je trouve que c'est positif. À un moment donné,
quand vous dites nous avons des joueurs pour, vous parlez notamment des deux pistons.
Ben, les deux pistons et surtout les milieux défensifs aussi, parce que c'est vrai que l'équilibre de ce système, il se trouve au milieu. Parce que quand on est contré, il faut qu'on a deux joueurs qui sont à vocation très défensive. Je pense qu'on les a. Ça reste positif. Bon, après, maintenant, parce que est-ce que l'adversaire il a été fébrile hier ou est-ce que c'est le système qui l'a rendu fébrile et notre jeu? Ben c'est quelque chose qu'il faut voir.
Je situe juste la place de l'adversaire au classement FIFA. 125e, jamais de participation en Coupe du Monde et 6 participations en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, jamais n'ayant dépassé le premier tour en Coupe d'Afrique des Nations. C'est juste pour donner une photographie de cet adversaire qu'est le Zimbabwe.
Après, maman, Zimbabwe, ça reste une équipe africaine aussi, et quoi qu'il arrive, coriace, hein, c'est une équipe qui a accroché le Nigeria à la qualification de Coupe du Monde, c'est une équipe qui a été battue difficilement 2-1 par le Cameroun, la qualification de la CAN. Je veux dire, voilà, ça reste une équipe africaine. Voilà,
alors, il y a des joueurs dans notre équipe nationale qui ont peut-être marqué des points hier. Je pense à Maza, notamment, titulaire d'entrée.
Surtout Maza. Je pense surtout Maza sur le match d'hier, parce que c'est vrai que à chaque fois on réclame, on va dire, sa titularisation. Hier, il a fait un super match. Bon, après Maza, je pense qu'il est dans une forme extraordinaire ces derniers temps, avec son club, avec la sélection.
Il est en pleine confiance avec son club, auteur d'un doublé, la victoire du Bayer Leverkusen 6-0. Il a été auteur d'un doublé, et là on l'a vu, titulaire d'entrée.
Oui, en Ligue des Champions aussi, contre Benfica aussi. Non, mais je pense que... on a un effectif, honnêtement, moi je pense qu'on a une équipe vraiment extraordinaire. Il faut juste faire confiance au sélectionneur, il faut continuer à y croire. Je pense qu'on a quelque chose de positif pour le futur, Inch'Allah.
Sur la deuxième mi-temps, en revanche, on encaisse un but sur une erreur de Belghali.
Après, ça reste...
Dans le 1 contre 1, il s'est fait prendre sur le 1 contre 1.
Bon, on va dire qu'on va, on a pris un but sur penalty pour on va dire être plus positif. Après, bon, les erreurs font partie du football. C'est vrai que c'était un moment du match où c'était, je pense, c'était la 88e, hein, c'est ça.
Oui, je dis peut-être il y a un moment de déconcentration parce qu'on l'a vu la deuxième mi-temps, l'équipe nationale a déroulé, elle aurait pu marquer deux, trois autres buts.
Trois de plus, bien sûr. Ouais. Après, fin de jeu comme ça, fin de match, c'est vrai qu'un joueur on se doit de qu'il soit professionnel jusqu'à on va dire concentré jusqu'à la fin. Bon, après ça reste on parle d'un joueur qui a 22 ans. Après bon, je pense que c'est pas
il
grave.
Il est en train de, également au niveau international, c'est ses premières sorties, hein, c'est sa deuxième
exactement,
sortie.
Exactement, il prend de l'ampleur en l'espace de 2 ans. Il passe de Lommel à Hellas Vérone. Non, c'est quelque chose de, honnêtement, j'y crois beaucoup à notre sélection. Quand je regarde les joueurs, quand je regarde ce qu'ils produisent en club, en sélection, etc. et tout, nous, on a tendance, c'est vrai, à être très, très, très méchants avec notre sélection.
Je dis parce que peut-être, à force d'en attendre beaucoup, il y a beaucoup d'attentes, d'où peut-être ce type de réaction.
Possible, mais après, c'est des fois des critiques objectives, c'est bon. Mais des critiques pour critiquer.
Ah oui, ça, bon, ça voilà. Non, c'est, ça, il faut rester. On doit être constructif. Alors, je voudrais revenir sur un deuxième aspect. La crainte hier, je ne sais pas si en apprenant le 11 rentrant, avec pour la première fois, on expérimente le 3-5-2, peut-être un manque de complémentarité. Il y avait une crainte. Or, on l'a vu quand même. Il y a eu de bons enchaînements, il y a eu de belles actions durant la rencontre.
Mais c'est ce que je disais juste au début, hein, maman. Je disais qu'on a les joueurs pour. C'est les joueurs s'adaptent vite. Ils n'ont pas trouvé de difficulté. On n'avait même pas l'impression à un moment donné qu'on était en 3-5-2 ou en 3-4-3-3. C'était vraiment modulable. C'était extra parce que les joueurs, ils ont su. Après, dans ce système-là, c'est quand même, quand on voit le deuxième but, on se demande qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Le deuxième ou le troisième, je ne me rappelle plus. Et il a marqué dans le troisième.
Oui, sur le troisième but de Hajam.
Voilà, de Hajam.
Sur un mauvais Maza fait tout le travail, mauvais renvoi de la défense. Et Hajam qui, regarde, il se porte dans la surface adverse, alors qu'il est sur un rôle de défenseur. Et il marque.
Exactement, ce que je disais. Après, je pense qu'on a vu par moment même trois systèmes, quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon. C'était intéressant, honnêtement, sur le contenu, je pense que c'était vraiment, vraiment intéressant. Après aussi, le terrain nous a permis de jouer, de dérouler aussi.
Superbe terrain, super pelouse.
Voilà. Et quand on a des bons joueurs comme les nôtres, c'est vrai, un terrain comme ça, ça aide beaucoup.
Ça méritait. Alors, il y a des joueurs également. Alors, on va revenir. Il y a des joueurs. Je vais rester sur un compartiment. Je sais, sûrement, hein, comme tout le monde, vous avez fait, comme tous ceux qui suivent l'équipe nationale, il y a un poste où ça se dégage pas vraiment sur ce poste-là, c'est le poste de gardien de but. Hier, c'était Benboot. Qu'est-ce que vous dites sur la prestation de Benboot? Il a eu une relance ratée et le pénalty.
Après, honnêtement, Benboot, quand on voit ce qu'il fait depuis quelques années, aujourd'hui, c'est un prétendant sérieux à la place de titulaire. Le gardien de but, c'est délicat, ben justement, c'est parce qu'on a beau être concentré pendant 90 minutes, il suffit qu'on commet une erreur ou une demi-erreur, on la paye cash. Maintenant,
on l'a vu sur sa relance, il s'était raté, ça a failli coûter un but. Bon, sur le pénalty, c'est un duel, il peut gagner comme il peut le perdre. Il a une chance sur deux.
Après, honnêtement, je pense que c'est un prétendant sérieux. Maintenant, est-ce que c'est un titulaire futur? C'est la question, hein, on doit se la poser. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on cherche beaucoup plus un gardien qui est très bon avec son jeu de pied que on va dire que faire des arrêts. Vous voyez, donc ça dépend du sélectionneur, etc. et tout. On va voir ce qui va se passer dans le futur. Pour moi, aujourd'hui,
peut-être que son point faible, Benboot, c'est le jeu au pied.
Ben justement, c'est pour ça que je disais ça juste avant. Hein, aujourd'hui, on a vraiment besoin d'un gardien qui a un jeu de pied extraordinaire. Un 9 sur 10 ou un 8 sur 10. Vous voyez, voilà, on veut sortir avec un build-up. Voilà, on a des joueurs de football. Aujourd'hui, une fois qu'on casse le premier rideau de l'équipe adverse, ça y est, c'est fini. Donc après, il faut exploiter ça. Les arrêts, aujourd'hui, on les fait ou on les fait pas. Ça devient pour un gardien de but... quelque chose qui passe limite, on va dire, moins important que un jeu de pied. Voilà, donc c'est pour ça il faut voir. Mais pour moi, ça reste un top 3 des gardiens
de l'équipe nationale. Merci. On va rester avec nous juste sur les changements qui sont intervenus. On va écouter l'entraîneur national.
Sicuramente abbiamo tentato anche secondo tempo di migliorarci e di segnare.
On a essayé aussi la deuxième mi-temps de s'améliorer, de marquer des buts. On a eu des occasions, mais on n'a pas été assez précis. On a quand même fait beaucoup de changements dans l'équipe. On a cherché de garder les principes. 6 changements chez nous, 6 changements chez l'adversaire. Le fait de changer autant de joueurs, automatiquement, ça gêne aussi ce qui est l'organisation et surtout ce qui est l'équilibre entre l'équipe. Je suis quand même satisfait. Maintenant, il faut absolument se reposer et se recharger. Parce qu'il faut aussi avouer que les conditions, ce sont des conditions difficiles et il ne fait pas facile de jouer dans une situation comme ça.
Parce que non è facile anche con questa umidità.
Je pense qu'il parlait de la chaleur, l'entraîneur de l'équipe nationale. Alors, il est avec nous, merci, Djilali Belloul, je rappelle, l'entraîneur, ex-entraîneur de l'USM, Khanchla. Djilali Belloul, alors, question, peut-être, je ne sais pas, hein, comme tous ceux qui aiment ce type de joueur, Kebal, je pense qu'on aurait pu peut-être un peu plus de temps de jeu.
C'est ce que j'allais dire, vraiment. Le seul petit regret, ouais. C'est peut-être l'entrée tardive de Kebal. J'aurais voulu qu'il rentre 15 minutes avant. Pour qu'il a plus de temps, plus parce que voilà, on aime ce genre de joueur, surtout en Algérie, un technicien, quelqu'un de malin, avec un super pied. C'est dommage. C'est le seul, on va dire, petit regret que j'ai sur ce match-là.
Alors, Kebal, où vous le placez?
Honnêtement, Kebal, par rapport à ce qu'il est en train de faire depuis le début de saison, même par rapport à sa dernière saison, on va dire, en Ligue 2 à Paris FC, où il a été aussi extraordinaire. C'est un joueur qui peut devenir un vrai titulaire maintenant.
Mais où vous le placez dans le jeu?
Au cœur du jeu, je pense.
Au cœur du jeu ou sur le côté droit?
Non, je pense au cœur du jeu. Côté droit, je pense qu'il y a déjà assez de la concurrence avec Mahrez, avec Hadj Moussa.
Mais c'est pour ça que je vous ai posé. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Vous l'avez compris.
Ouais, parce que quand on voit que même Bonani, il a pas été sélectionné, je pense que le sur le côté, je pense qu'aujourd'hui. Il devrait jouer dans l'axe, parce que sur le côté droit, c'est la concurrence déjà les rudes, parce que même Hadj Moussa, je pense qu'il peut devenir un titulaire indiscutable. Quoi.
Eh bien, Djilali Belloul, merci. Prochain match contre l'Arabie Saoudite, c'est un autre adversaire, une autre dimension.
Exactement, je pense qu'il y aura le public plein pour l'Arabie Saoudite, avec une équipe qui est bien joueuse, qui se qualifie pour le Mondial. Ça va être un vrai match test aussi. Mais bon, à ce moment-là aussi, on aura notre équipe type aussi. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner, mais je suis confiant, honnêtement, j'ai beaucoup de confiance à cette équipe nationale, à notre équipe nationale.
Merci Djilali Belloul d'avoir été avec nous en direct. Merci, on vous souhaite bon vent.
Merci beaucoup.
Merci. Et là on va retrouver Mourad Wardi. Avec Mourad Wardi, on va s'intéresser au match contre l'Arabie Saoudite qui aura lieu ce mardi. Mourad Wardi, bonjour.
Bonjour, Mohamed, à vous et à tous nos chers auditeurs de la CFRO.
Merci d'être avec nous en direct. Vous avez vu le match d'hier, il y a un match ce mardi. Sûrement que l'entraîneur va changer d'équipe.
Oui, je crois que l'entraîneur est à la recherche. On a vu, hein, ces deux matchs que je peux dire, c'est deux matchs, deux en un. Hein. Un, c'est essayer des joueurs et deux, essayer une autre forme de jeu. Maintenant, est-ce que les joueurs qui sont retenus et qui doivent peut-être faire des changements au deuxième match contre l'Arabie Saoudite, est-ce que il va se mettre dans le même dispositif de jeu?
C'est toute la question.
La description d'un dispositif, c'est mettre la valeur des joueurs pour acquérir un dispositif. Maintenant, si vous me parlez de Mahrez...
Non, je ne parle pas de Mahrez, je parle du schéma dans l'ensemble. Il va jouer avec une autre équipe, peut-être qu'il va revenir à sa défense classique. Voilà.
Il a essayé pendant pratiquement tout le match contre le Zimbabwe, même dispositif, hein, même pendant les changements qu'on a vus. Une équipe qui a su réagir en première mi-temps dans un dispositif clair, avec quelques petites lacunes, bien sûr. On se met pas tout de suite dans une logique tactique et en la changeant rapidement. Oui, c'est le temps qui va être compté. Est-ce que ce temps-là va être, dirais-je, réutilisé lors du deuxième match contre l'Arabie Saoudite avec un potentiel autre? Est-ce qu'il va rester, il va chercher un autre schéma de jeu? Maintenant, c'est le deuxième match qui va nous le déterminer.
Ce sera déjà...
C'est un match différent dans la qualité un peu des équipes.
Surtout dans la qualité, avec tout le respect qu'on doit au Zimbabwe.
Ah oui, il y a la qualité, le classement FIFA. Aujourd'hui, c'est un autre calibre d'équipe et c'est une autre forme de jeu. Maintenant, est-ce qu'on va rester dans cette même option? Moi, je dirais, hein, au vu des matchs qu'on a eu à voir avec l'ère Petkovic, on a senti quelque part qu'il y a une faiblesse dans la reconversion et il y a une faiblesse dans le cœur du jeu. Et dans cette zone du jeu qui est le milieu de terrain, on a vu tant de changements. Hein. À l'exception de Boudaoui qui est resté égal à lui-même, mais qu'on a fait sortir de temps à autre, mais pour les deux autres dans cette zone de jeu, on a vu des perpétuels changements.
Ben Taleb, Zerouki, Ben Nassar, Fer Shaibi, bon, il est qui absent pour ce stage, blessé.
Oui.
Aouar également.
Donc je dirais, c'est cette zone de jeu qui est susceptible d'être revue. Susceptible d'être revue comment? Peut-être en renforçant un petit peu cette zone pour donner un équilibre offensif et une assurance défensive. C'est sur cela que peut-être Petkovic va se mettre à l'œuvre et peut-être ça va lui donner raison. Attendons de voir encore ce deuxième match pour faire une analyse générale du comportement de l'équipe avec deux nouveaux joueurs, quelques nouveaux joueurs et avec un schéma de jeu néo-look qui pourra peut-être répondre aux besoins pressants et à la recherche constante d'un milieu équilibré.
Mais vous avez très bien résumé Mourad Douardi pour nous emmener sur le prochain match. Moi, je vous dis merci encore une fois. On se retrouvera vendredi prochain pour l'analyse de cette confrontation, de ce deuxième match face à un adversaire, je le rappelle, d'un tout autre calibre qu'est l'Arabie Saoudite. Hier également, il y a eu le match, la demi-finale, eh bien, pour des quatre nations ou des nations devant se qualifier pour le tournoi intercontinental. Le Nigeria qui était opposé, je le rappelle, au Gabon et la RDC au Cameroun. Le Nigeria est passé après prolongation s'imposant 4-1 et la RDC dans le temps additionnel a battu le Cameroun 1-0. C'est un véritable coup de tonnerre au Cameroun, au pays des lions indomptables, Rustom Yahya Chérif.
Oui, bonjour, Mme. Les Lions indomptables qui n'auront pas la chance de disputer cette 9e phase finale de Coupe du Monde, éliminée par la République démocratique du Congo, alors que la rencontre entre le Cameroun et la République démocratique du Congo s'acheminait vers un match nul, 0-0. Sur un dernier corner, le défenseur et capitaine Chancel Mbemba surgit dans le temps additionnel, à la 90e plus 1 exactement, pour pousser le ballon au fond des filets et inscrire le but de la victoire pour la République démocratique du Congo, qui entretient ainsi le rêve de disputer la prochaine Coupe du Monde. On va écouter sur cette victoire de la République démocratique du Congo, son entraîneur Sébastien De Sabre.
On est content d'avoir gagné. Et c'était vraiment un match comme attendu contre deux belles équipes d'Afrique dans des conditions de jeu qui étaient un peu difficiles avec la pluie, mais sur une très bonne pelouse. Donc c'est vrai qu'il y a eu du spectacle. On a eu nos situations, ils ont eu les leurs et on a réussi à gagner sur coup de pied arrêté. Bien sûr, c'est une étape. Nous, c'est notre 11e match de qualification pour aller à la Coupe du Monde. On va en faire un 12e dimanche. Donc c'est un long parcours. On a joué, il me semble, sur les 10 premiers matchs, 9 fois sur terrain synthétique. Là, ça nous fait du bien. pour notre jeu, pour poser notre jeu aussi, d'être sur des bonnes pelouses. Voilà. Et puis après, on a les vertus qu'on a, l'organisation tactique qu'on a.
Sébastien de Sabre, ça vous parle, Sébastien de Sabre?
L'ex-entraîneur de la JSAOA.
Oui, l'ex-entraîneur de la JSAOA, maintenant qui prend les sélections au niveau continental.
Et ce dimanche, la République démocratique du Congo défiera en finale de barrage un autre géant d'Afrique, le Nigeria, qui avait battu un peu plus tôt dans la journée d'hier le Gabon 4-1 après prolongation. On va écouter l'entraîneur du Nigeria sur leur victoire, Eric Schell.
We didn't think that we go in extra time, but
on ne pensait pas qu'on allait au temps additionnel. Ça a été très difficile face à une bonne équipe du Gabon. Après avoir ouvert le score, on a raté l'occasion de tuer le match à plusieurs reprises. Ce but du Gabon nous avait à un moment donné un peu tué, mais après on a tout fait pour revenir au score. Et ce 4-1 démontre notre volonté d'aller jusqu'à la finale de ce barrage. C'était Eric Schell, l'entraîneur du Nigeria. Eric Schell, également, ex-entraîneur du Moutador.
Il a fait une petite pige, mais oui. Osimhen a fait un superbe match.
Doublé.
Le Nigeria, Osimhen. Auteur d'un doublé, il a été décisif. Alors le match, ça sera la finale. Elle va mettre aux prises le Nigeria à la République démocratique du Congo.
Et ça sera ce dimanche. Et justement, on va écouter sur ce match l'entraîneur de la République démocratique du Congo, Sébastien de Sabre, qui nous parle de cette coréenne équipe du Nigeria.
On va s'axer sur notre récupération, en toute humilité. On a battu une bonne équipe du Cameroun, qui a pris beaucoup de risques en fin de rencontre pour essayer de marquer ce premier but. Et puis le Nigeria, ça reste également ce qui se fait de mieux en Afrique. De toute manière, ce sont des équipes qui sont devant nous au classement FIFA. Et nous, on sait qu'on a encore une marge de progression, comme on a montré, on avance. Voilà, on avance, on a fait un bon pas aujourd'hui. Et on aura encore une opportunité contre le Nigeria pour encore montrer de quoi on est capable. Mais ça sera un autre match. Et quoi qu'il arrive, on va se lancer à fond dans la partie, parce que c'est sûr qu'on va jouer crânement notre chance comme adversaire.
Nigeria, République démocratique du Congo, ça sera ce dimanche. Le vainqueur disputera au mois de mars prochain un match barrage intercontinental.
Le tournoi a lieu au mois de mai. Le tournoi a lieu au mois de mai et non mars. Hein, je vous dis, c'est au mois de mai. C'est ce qui a été annoncé. C'est ce que j'ai pu lire. C'est au mois de mai. Il faudra regarder la date. Sur le tournoi. On l'espère que ça sera une nation africaine qui ira représenter le continent à la prochaine Coupe du Monde. L'Algérie étant déjà qualifiée. Et ça va mal pour Samuel Eto'o-Fils, puisque beaucoup demandent tout simplement sa démission. Le président de la FECAFOOT. Autre équipe algérienne qui sera aujourd'hui sur un terrain de foot, c'est en Égypte, c'est notre équipe nationale Aprim. Les Aprim, Ali Hamouche, qui prépare le tournoi arabe qui aura lieu pour la deuxième fois, c'est le deuxième sous l'égide de la FIFA, au Qatar. L'Algérie détentrice du trophée, faut le rappeler. Bonjour.
Bonjour Mahmoud. La Coupe arabe FIFA 2025, donc, qui se déroulera du 1er au 18 décembre, vous le disiez, au Qatar. Et l'Algérie, donc, qui disputera un des deux matchs face à l'Égypte aujourd'hui au Cairo Stadium. Ça sera à partir de 15h. Pourquoi le choix de l'Égypte? Réponse avec Majid Bougalan.
Farid Tamassar, qui a constitué une équipe spéciale pour la Coupe arabe. On a 12 joueurs qui ont joué déjà en équipe A. Des joueurs de l'équipe A, dans le passé ou même dans le présent, très, 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 très proche. Il y a 7 joueurs qui étaient aussi à la dernière Coupe arabe. Une équipe expérimentée, de qualité, déterminée de faire quelque chose via Dikal Kassel Arab. Et un bon test. Un bon test avec une équipe et un match qui va être de haut niveau. Une équipe très agressive, très expérimentée, très malin, très bon techniquement. Ils ont fait des bons résultats justement contre la Tunisie. Ils ont gagné 2 matchs à domicile, 3-0, 1-0. L'objectif, c'est justement de mettre les joueurs dans le bain de la Coupe arabe avec beaucoup plus d'intensité comparé au dernier match qu'on a eu contre la Palestine. Là, une équipe qui va entreprendre, qui va jouer, qui va venir presser. Donc, de bonnes conditions, Bush, Nkunu Wajdin fait la Coupe arabe, Inch'Allah.
Et retour sur la conférence de presse de Majid Bouguerra où il a expliqué ses choix par rapport à certains joueurs, notamment les deux trentenaires qui ont été retenus. Et c'est, il s'agit de Riyad Boudbouz, 35 ans, et surtout de Islam Slimani, 35 ans, qui a rebondi au sein de la formation de Cluj cette saison. Les explications avec Majid Bouguerra sur la sélection de Slimani et Boudbouz.
Je les mets dans le même panier des joueurs expérimentés comme Saïd, comme Brahimi, comme Bedran. Ce qui est sûr, c'est que Fihadik al-Kassar Arab, l'Azim, des joueurs expérimentés et avec du caractère. J'ai fait deux chans, les joueurs Mahali, entre guillemets, des joueurs de qualité, talentueux, mais qui manquent de caractère, de personnalité. Et une coupe arabe, qui nous aide la pression, on est attendu, beaucoup d'engouement, des gestions de match émotionnelles à gérer pendant un match qui peut être très importante pour se qualifier. C'est un joueur, voilà, il revient bien, on le suit avec le staff comme tous les joueurs. C'est quelqu'un qui a envie de finir l'équipe nationale et sortir par la grande porte, est très très déterminé. Après, la liste n'est pas finie. L'objectif, c'est d'avoir une colonne vertébrale expérimentée pour gérer cette coupe arabe parce qu'elle va être, beaucoup plus compliquée que Hadik la dernière. Tout le monde nous attend.
Et en parlant de joueurs d'expérience, il y aura également Brahimi et Adem Ounas qui n'ont pas été retenus pour ce stage pour des raisons médicaux. Donc, mais
ils ont donné leur accord.
Leur accord.
Ah, donc ils seront présents. Brahimi va jouer sur, disons-le, chez lui.
Absolument. C'est l'un des meilleurs joueurs du championnat qatari cette saison.
Très bien. Donc Brahimi, Ounas vont rejoindre dans l'équipe. Ça, c'est il fallait le rappeler. Vous avez bien fait.
Et durant cette conférence de presse, donc le sélectionneur national qui est revenu également sur d'autres joueurs avec un profil intéressant par rapport à l'équipe nationale a pris. Malheureusement, certains d'entre eux n'ont pas pu donc répondre à la convocation de la sélection nationale puisqu'ils ont été plutôt à cause du non-accord de leur club.
Qui concerne Akhrib, bah, j'ai été un des premiers à le sélectionner. Hein. C'est un joueur que j'aime beaucoup, comme d'autres, comme Bougershawi. Il y avait Meshit que j'ai pris à la chaîne parce que je sais qu'il a des capacités pour aller loin. Mais en tout cas, je sais qu'Inch'Allah, il va avoir une bonne carrière parce que c'est quelqu'un de très sérieux, déjà toujours souriant, qui joue pas. Et en tout cas, ouais, il revient bien. Il a un début de saison un peu compliqué, il revient bien. Mais voilà, il y a de la concurrence. De son côté, il y a Dermoum, il y a Ounas, il y a Gitan, il y avait Bulloumi. Pendant toute cette période-là, on a contacté beaucoup de joueurs. On a, bon, Kylian Belazouk, par exemple, je parlais du gardien. On l'a sélectionné dans un premier temps, déjà pour lui donner l'opportunité de connaître son pays, avoir les premières sensations, parce que pour moi aussi, c'est un gardien de l'avenir en équipe nationale. Et là, c'est l'opportunité de le prendre à la Coupe Arabe n'est pas possible, parce que Rennes n'a pas pu le libérer. On a Gitan, on a eu le feu vert. On avait Bulloumi, on avait le feu vert, mais Meskin, la veille de la sélection, il s'est blessé aux ischios, donc il sera pas disponible. On a Hicham Ferha, qui a deuxième division en Hollande, un joueur aussi prometteur, compliqué d'avoir l'autorisation. On a Ben Boali, qu'on est en contact avec lui, son club n'a pas voulu le laisser. On a Kadri aussi, que j'ai contacté, pareil, le club n'a pas pu. On a Zouaoui aussi, l'arrière-gauche du Havre, pareil. Il y en a plein qu'on a contacté, qu'on voulait intégrer pour cette Coupe arabe.
Et parmi les autres...
Mais là où je suis étonné, c'est les dates FIFA.
Absolument.
Pourquoi les clubs ne laissent pas partir?
Non, c'est pas des dates FIFA. Pour la FIFA, pour ce tournoi,
oui,
c'est pas une date FIFA.
Puisqu'ils jouent aujourd'hui, on est en pleine date FIFA. Je le rappelle. Si on est
mais sur... lui, il évoque là le tournoi par rapport à la Coupe.
Tournoi.
Pour le
très
tournoi.
Bien. Ah, très bien.
Donc, s'il le,
mais il se joue sous l'égide de la FIFA.
Mais c'est pas une date FIFA.
Ah, d'accord.
Donc, c'est pas une date FIFA. Donc, ça dépend du bon vouloir des clubs. Donc, pour lâcher, pour plutôt céder ses joueurs à la sélection nationale. Il a également évoqué le cas de Abd Samad Bounassal, le défenseur d'Essed, l'un des meilleurs défenseurs en ce moment dans le championnat qatari, qui malheureusement ne sera pas retenu puisqu'il revient d'une blessure qu'il a noyée des terrains durant 8 mois. Et enfin, par rapport au fait que est-ce que la sélection à prime sert à préparer l'avenir ou bien une échéance bien précise, la réponse est claire de la part de Majid Bouguerra.
Les deux, tout dépend du planning et de la projection que tu prépares. La première Coupe arabe, on avait eu quasiment 1 an et demi de préparation. On avait préparé le Chan et la Coupe arabe en même temps, donc on essaye de préparer des joueurs pour intégrer l'équipe A ou donner aux joueurs locaux, surtout à l'époque, l'opportunité à travers ces matchs-là de prendre le rythme international, de l'expérience internationale. On a eu des, que ce soit entre le Chan et la Coupe arabe, on a eu Kendouci, on a eu Gendouz, on a eu Belaïd, on a eu, bon, je parle pas de Amoura et tout parce que c'était rapide. Des joueurs qui sont aujourd'hui avec l'équipe A. Donc c'est ça l'objectif de l'équipe A prime. Après, pour cette Coupe arabe et pour ce SAN, la préparation a été plus courte. Donc on peut pas préparer une génération, on peut pas préparer une équipe sur du long terme, on prépare une équipe pour défendre le titre. Mais sur l'avenir, si le président décide de continuer avec les A prime, c'est vrai qu'il faut s'y prendre à l'avance. Préparer une SAN avec une équipe, on va dire, plus jeune et démarrer sur un cycle de 1 an et demi de travail.
Toute une question de temps d'autre.
Attendez, mais juste pour rappeler, il faut le rappeler. Dernière coupe arabe, il y avait les beaux joueurs, il y avait Brahimi qui était dans cette équipe, il y avait également Boulhi qui était dans cette équipe, Blamri qui a joué, Blaili qui a joué, qui a été, rappelez-vous, ce but magnifique qu'il a inscrit contre le Maroc. Donc l'équipe avait été renforcée par les joueurs de l'équipe A.
Chose qu'il ne peut pas faire cette fois-ci.
C'est ce qu'il ne peut pas faire parce qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ouais. à l'époque, rappelez-vous, c'est l'équipe nationale qui en a fait les frais. Parce qu'au niveau de l'ascenseur émotionnel, les joueurs avaient gagné le tournoi, on était tous contents, tous heureux, et c'était très bien. C'est vrai que c'était une première expérience, on n'avait pas à mesurer, mais tout juste après, il fallait enchaîner sur une Coupe d'Afrique des Nations. Et là, ça s'est compliqué. Ajouté à cela, on sortait de la période Covid. Donc je dis, c'est deux situations complètement différentes. Alors aujourd'hui, aller en Coupe arabe avec cet objectif, conserver le trophée, on n'a pas encore les équipes qui seront prêts. Avec quel effectif les équipes, les nations, les adversaires seront présents, ça on le sait pas. Ce qui est sûr, il a décidé de jouer sur l'expérience, on le voit, sur des joueurs aguerris, il le dit. Il a pointé du doigt les joueurs du championnat local en disant qu'il manquait de caractère et qu'il avait besoin de joueurs ayant plus, beaucoup plus de caractère pouvant s'affirmer sur ce type de tournoi. Donc on verra, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a lancé le débat. Prochain Chan, avec qui aller avec une équipe des U20, des moins de 23 ans, une équipe jeune, préparer l'avenir. Ça, je sais pas. Je dis pas préparer l'avenir. Parce que quand on regarde Ali Hamouche, vous le suivez depuis très longtemps. Quand vous voyez, par exemple, hier, vous prenez, sur les joueurs qui ont évolué hier, c'est pas l'équipe type, Benboat et Blade, qui évoluent dans le championnat de Ligue 1. C'est un retour de Blade dans le championnat de Ligue 1. Très bien. Mais sinon, si vous regardez, tous ceux qui sont aujourd'hui en équipe nationale issue du championnat, il a fallu aller à l'étranger pour hisser leur niveau de jeu. Je pense notamment à un joueur comme Amoura, je pense à un joueur comme Bounedjah, Ben Sebaini, vous prenez Titraoui, qui a le potentiel. Et Titraoui, hier, on l'a vu un bout de temps, mais moi je pense que c'est un joueur à qui on devrait redonner encore beaucoup plus de temps. Voilà, c'est pour juste remettre les choses en perspective.
Et cette liste qui pourrait être étoffée par des joueurs de la sélection nationale A qui ne seront pas retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations. Tout se décidera après cette réunion. Petkovic Bougarin.
Merci Ali Hamouche. Voilà, match c'est à quelle heure?
C'est à 14h aujourd'hui.
14h face à l'Égypte. Ça sera au Cairo Stadium pour notre équipe nationale. Je vous rappelle, si vous n'étiez pas avec nous, ça sera ce mardi 17h30. Al Jeddah face à l'Arabie Saoudite. Je dis bien. Et là, maintenant, on va aller plonger dans le championnat de Ligue 1. Le championnat de Ligue 1, ça a été une grosse surprise. Donc, vous allez me dire de qui je parle, vous allez comprendre tout de suite. Je parle de la JS Saoura. La JS Saoura avec un entraîneur, Lotfi Boudra. Alors, Lotfi Boudra, il prend la JS Saoura en début de saison. C'est vrai qu'il débute par une défaite contre le MB Louisette 2-1, mais par la suite, la JS Saoura se reprend très bien. C'est simple, juste pour un rappel pour nos auditeurs, la JS Saoura ramène un nul de son déplacement à Sétif. Vous allez me dire, Sétif n'est pas en très grande forme actuellement. Mais bon, c'est un point de prix. Ils battent l'AS Ochlev 1-0. À Constantine, ils mettent fin à cette série noire face au Chabab Riyadi de Belouizdad. Ils s'imposent 2-1. Ils enchaînent face à une autre équipe également grand favori pour le titre de champion, l'USMA d'Alger, en s'imposant 1-0. En déplacement au 20 août, ils reviennent avec un nul contre Ben Aknoun. Ils battent Akbou 3-2. Ils reviennent du MCO, équipe en forme, avec un nul de Miloud Hatfi, 1-0. Contre la JSK, ils font preuve de caractère, menés 2-0, ils reviennent à 2-0. Et puis, patatrac. Là, il y a un grain de sable dans la machine, il y a un trou d'air. Contre le Mouloudia, attendez, ils perdent 1-0. Grosse écurie, le champion d'Algérie en titre, le leader du championnat. Mais le grain de sable, c'est surtout cette défaite qui a fait mal contre le Paradou. Et voilà qu'on apprend. Moi, je le dis, c'est le communiqué. Généralement, quand on signe ce type de communiqué, c'est une séparation à l'amiable. Et il est avec nous, Lotfi Boudria. Je vous rappelle, JS Aura, cinquième. Alors, je vous donne son parcours. 4 victoires, 4 matchs nuls, 3 défaites. Lotfi Boudria, bonjour.
Bonjour, Mohamed.
Alors, 14 buts inscrits, 13 buts encaissés. Vous encaissez beaucoup de buts. Lotfi Boudria, que s'est-il passé? Pourquoi ce départ?
Bon, je dirais, voilà, il y a quand même, sur ma, si je parle sur ma démission, deux trucs, il y a le truc personnel. Oui. Il y a quand même, je dirais plutôt, je laisse la place à un autre, un nouveau discours pour continuer.
Mais le discours, il est encore frais, il est pas, le discours, il est frais. Vous venez de prendre le club en début de saison. Vous avez fait aller, vous avez fait 11 matchs, exactement. 11 matchs, le discours est encore frais.
Oui, oui, mais quand même, après le match du MCA, j'en ai senti que, quand même, il y a une mécontente de la part des dirigeants. Donc, sans plus.
Après la défaite contre le Mouloudia d'Alger?
Contre le Mouloudia d'Alger.
Mais vous avez joué le champion d'Algérie et vous perdez 1-0.
C'est quand même, voilà. Je sais pas, de toute façon, quand même.
Alors, je vais être clair. Qu'est-ce qu'on vous reprochait? Qu'est-ce que vous avez senti? Qu'est-ce qu'on vous reprochait? Le jeu, le compte, qu'est-ce qu'on vous reprochait? Le résultat?
Je sais pas, le résultat final, on a senti que, quand même, on pouvait faire quelque chose.
Mais vous avez, je tiens à rappeler, vous avez joué le Mouloudia, hein.
Oui.
Le voilà, champion d'Algérie en titre, invaincu.
Après, on était perturbé par le truc de, du, en fait, la, le gardien de but, la sanction à la dernière minute. C'était le dimanche que la Ligue a envoyé le.
Oui, mais ça, c'est pas vous. Vous n'êtes pas le responsable de la sanction. La sanction, oui. C'est pas vous.
Après, voilà, c'est ça. Donc, le résultat contre le Parado, mes trucs personnels. Donc, j'étais obligé de rentrer chaque fin de journée. Et vous savez, à Béchaf, c'est pas facile. Parce que j'avais des trucs familiales où il faut que je rentre chaque, à la fin de chaque rencontre. Et puis, voilà, tout un début à une fin, je laisse la place à un autre. Peut-être.
Très bien, mais tout le monde, en voyant la JS Aura cette saison, vous êtes dans la partie haute du classement. Hein, je rappelle, vous êtes cinquième à 6 points de retard sur le leader qui a 3 matchs de retard, il faut le rappeler toutefois. Mais vous êtes sur la partie haute, vous êtes une équipe, je dis, hein, en transition, parce qu'il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Tout le monde pensait que vous étiez parti pour un long bail avec la JS Aura.
Oui, alhamdoulilah, je pense jusqu'au là le parcours quand même était pas comment dirais-je pas mal. Voilà, pour laisser la place à un autre pour aller à l'objectif de cette équipe.
C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif?
L'objectif c'est de participer à une compétition africaine la prochaine.
Et vous pensez que cette saison vous avez les moyens techniques? Quand je dis technique, l'effectif pour aller sur une.
Franchement, l'effectif, je dirais c'est un effectif moyen. Nous on a poussé l'effectif.
Parce que attendez, quand vous voyez à côté, vous avez le Mouloudia d'Alger, vous avez l'USMA d'Alger qui revient très fort, le MCO, le CRB, la JSK. Il faut les donc où est-ce que vous êtes pour aller sur une compétition africaine? Il faut terminer premier, deuxième, gagner la Coupe d'Algérie ou terminer troisième?
Troisième, voilà, tout à fait. Ça, je pense avec la cohésion du groupe, pour le travail qu'on a fait, avec le mercato qui s'annonce prochainement, je pense que le GSS Saura peut tenter quand même, malgré que c'est pas facile, mais peut tenter.
La décision, vous l'avez prise avant le match du Parado ou après le match du Parado?
On va dire avant le match du Parado. Je dis quand même, c'est. Voilà, et on annonce ça après le match de Parado. Et ils étaient pour, voilà, donc.
À quel moment vous vous êtes dit ça y est, je quitte? À quel moment? C'est pas possible, quand vous faites de tels résultats, vous dites pas je quitte, c'est pas contre. Après la victoire contre le CRB, non?
Non, pas là.
Voilà.
La victoire contre le CRB.
Oui.
Non, c'était loin, le CRB, c'est.
Donc, à quel moment vous avez dit après le c'est pas le, après le nul?
Dans la semaine après le match du MCA.
Après le match du MCA,
voilà,
vous avez dit ça.
Dans la semaine, voilà. Quand même, ça m'a fait réfléchir à mon avenir, et comme je vous ai dit.
D'accord, vous dites, il y a des aspects personnels qui ont pris le pas, j'avais des problèmes personnels qui ont pris le pas sur ma décision qui ont fait que j'ai décidé de partir. Et avec les joueurs ne vous ont pas demandé de. Vous n'avez pas. Avec les joueurs, comment ça s'est passé? Vous avez été lâché par le groupe? Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, avec le groupe, ça se passe très bien.
Oui.
D'ailleurs, on m'a appelé, moi, je parlais à personne, je parlais juste avec le président.
Oui.
Et le président parlait avec leur conseil et tout. Donc, ils ont pas dit non. Bon, je sais qu'il y avait des personnes à l'intérieur qui sont pour que je reste, d'autres non.
Ah, après, le groupe, donc, c'était divisé au niveau des dirigeants.
Voilà. Après, pour les joueurs, je garde que du bon. Ils m'ont appelé après, parce qu'ils ne savent pas. Et je leur souhaite que,
ah ben, voilà,
que du bonheur et du succès.
Eh voilà, bien, à vous également, on va vous souhaiter bon vent. On va vous souhaiter bon vent. Merci pour toutes les explications, monsieur Chiboudra. Je rappelle, vous laissez le club à la 5e place avec 16 points, 4 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Le club, c'est la JS Saoura. En revanche, il y a un club qui, lui, eh bien, est en train de faire une bonne entame de première partie de saison. C'est le Mouloudia d'Oran. Le Mouloudia d'Oran avec... alors, non, on nous a monsieur Lassette. Il est avec nous. On parlera du MCO tout à l'heure. Monsieur Lassette, l'entraîneur d'Al Bayed. Mohamed Lassette, bonjour.
Bonjour, Mamour, bonjour.
Alors, Mohamed Lassette, on fait appel à vous alors que le club est dernier. Mohamed Lassette, la saison dernière, vous avez terminé la saison avec la Coupe d'Algérie. Là, vous passez d'une situation à une autre avec l'USMA d'Alger. C'est complètement opposé.
C'est vrai, c'est une nouvelle mission très difficile pour ne pas dire impossible. Mais c'est ça notre métier. Il faut parfois prendre des risques et prendre des équipes. On n'a pas le choix. Nous, en tant qu'entraîneur, et surtout moi, je ne suis pas bien introduit dans le lobby du football algérien.
Pour vous, vous employez le terme lobby. Pour vous, il y a un lobby dans le football.
Bien sûr.
Très bien. Moi, alors, Mohamed Lassette, quand les dirigeants d'Al Bayed viennent vous voir, ils vous présentent le projet. Qu'est-ce qui fait que Mohamed Lassette ait dit oui? Qu'est-ce qui vous a poussé à dire oui? Parce que moi, peut-être à votre place, j'aurais dit non, ils sont derniers, ça va être très compliqué. Qu'est-ce qui fait que vous ayez dit oui?
En premier lieu, j'ai pas dit oui. J'avais évité diplomatiquement l'équipe. Mais une fois assis avec les dirigeants, j'ai vu qu'il y avait des dirigeants sur trois, sincères et communicatifs, qui ont contacté un entraîneur. Moi, j'ai vu comme à l'aide, ils ont fait un appel à l'aide technique. Et en même temps, j'ai eu des contacts, j'ai fait une petite expertise sur l'équipe. J'ai dit pourquoi pas. Il restait à ce moment-là, il restait 22 matchs. Et comme vous connaissez le football algérien, tout est possible.
Ouais, tout est possible comme ça. Ça, c'est quand vous le dites de manière théorique. Mais quand je vois les résultats sur le terrain, vous gagnez pas à domicile, à l'extérieur encore moins. Je me suis posé la question, Mohamed Lassette, comment il va s'en sortir?
Bon, c'est très simple. Moi, à mon arrivée à Al Bayed, la première semaine, ce que j'ai remarqué, c'est que les moyens de travail sont vraiment excellents sur le plan de récupération, transport, terrain, prison.
Vous êtes le premier à me dire ça. Vous êtes le premier.
Hébergement, restauration et surtout des dirigeants qui sont à la disposition d'équipe. Moi, si je veux dire que après 4 défaites de suite, moi j'ai pris l'équipe qui était à 3 points. Une petite malchance, j'ai eu Akbou et Jeska à l'extérieur, qui sont parmi les 4 premiers, et aussi le Mouloudia et le MCO à domicile. Donc, sur 4 matchs, on a eu 0 points. Sur le plan moyen, le Bayeut, si les gens voient 3 points, de loin, ils voient que c'est une équipe qui est vraiment algérienne. Je vous dis la vérité. Alors, sur le plan entraînement, programmation, présence, charge, transport et tout, il n'y a rien de...
Vous êtes en train de nous donner une toute autre image par rapport aux autres entraîneurs de l'Bayad. Hein.
Vous me connaissez, Mamar.
Oui, mais je n'ai pas dit, mais je sais très bien. Donc vous êtes le premier, vous dites, vous donnez un langage franc direct en disant « J'ai toutes les conditions pour travailler. »
Mais malgré que j'ai eu 4, sur 4 mois, 0 points. Donc je peux vous dire, il n'y a pas ça, il n'y a pas... Non, sur le plan, conditions de travail, c'est excellent.
Alors qu'est-ce qui manque? C'est les joueurs?
Le problème, il est très simple. C'est une équipe nouvellement créée. Il y a eu 14 joueurs de libre.
Ah, d'accord.
Je ne peux pas revenir en arrière. Oui. J'étais pas là, je ne peux pas.
De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avez 14 nouveaux joueurs, il faut que la mayonnaise prenne. Voilà, c'est ça, c'est aussi simple.
Deux problèmes. 14 joueurs de libre. Donc, problème numéro un, c'est une équipe nouvellement créée. Deux, les joueurs qui ont été recrutés, je ne dis pas qu'ils n'ont pas niveau technique, je me permets ça, je ne me permets pas de le dire, mais ils n'ont pas le rythme de la Ligue 1 pour ne pas dire le niveau. Ils n'ont pas le rythme.
Vous le dites, quoi.
C'est des joueurs qui viennent de divisions inférieures, Et en plus, il y a des jeunes et moins jeunes, à part un ou deux, par exemple, je peux citer Bouhakek, ex de la JSK et Marouani, tous les autres joueurs n'ont pas, je suis bien précis, n'ont pas le rythme de l'IGN, pour ne pas dire le
niveau. C'est là, dans ces conditions, ça reste compliqué, même si on a les moyens, et après vous avez l'équipe, bon. Oui.
Moi, j'ai fait un petit point avec les dirigeants. Je suis pas du genre qui peut partir et dire que ça va, il y aura pas de résultat. Je suis là, il reste 19 matchs, Mohamed. Et en football, tout est possible.
Moi, tant que vous y croyez, c'est bien.
Il y a 4 matchs qui restent pour la phase aller.
Oui.
On est à 3 points. Si on touche les 10-11 points, donc on passe à l'étape 2. On va se renforcer au mercato d'hiver. Si on touche les 10, 11, 12 points, il reste 4 matchs.
Donc vous dites, il faut prendre sur les 4 derniers 4 matchs, il faut prendre au moins 10 points. D'autant plus que devant vous, le Paradou marche très bien.
10 points ou 9 points touchés, 11, 12, tout est possible. À partir de là, on va faire un mercato et on va recruter pas moins de 4 joueurs. Et on continue à se battre. Dans le cas contraire, si on ne touche pas ce capital de points, moi, je pense que on va prendre une décision. Et la première, ça sera la mienne. Moi, je peux pas rester, pas pour éviter la guerre, je peux pas rester et faire perdre de l'argent et des moyens pour l'équipe qui est déjà en D2. Et ça, je le souhaite pas. Donc, je donne un conseil aux dirigeants. Maintenant, il faut se consacrer aux 4 matchs.
Très bien. Mais les 4 matchs, le mercato. Et après, on verra.
Et après, on va voir. Mais c'est ce qui, pour ce qui est de la tâche, la fonction que j'ai prise, c'est mon métier, Mohamed. Et moi, la chose qui m'a vraiment attiré, c'était le parcours de l'équipe de l'Albaye de l'année passée. Mais une fois sur le terrain.
Il y a 14 joueurs qui sont partis.
14
joueurs partis avec, qui étaient avec l'autre Amrouche. Vous arrivez avec 14 nouveaux joueurs et vous l'avez dit, des joueurs qui n'ont pas le rythme de la Ligue 1, pour ne pas dire qu'ils n'ont pas le niveau de la Ligue 1. Merci.
Pour ne pas être sévère avec, mais je peux. Et vous êtes en témoin, on peut faire la différence, Inch'Allah.
C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci de nous avoir donné une photographie sur l'équipe d'Albeyad. On va terminer avec le MCO. Le Mouloudia d'Oran, c'est l'équipe en forme. Sur les 4 derniers matchs, 3 victoires et un match nul. Donc 4 matchs sans défaite pour le MCO. Sur ces 3 victoires, 2 à l'extérieur. Un joueur symbolise cette bonne santé du Mouloudia d'Oran, c'est son gardien de but, Léonard Ragoun. On va aller à la découverte de ce gardien de but. C'est un sujet signé Ali Hamouche.
Léonard Ragoun, voilà, moi j'ai été formé au PSG, j'ai fait 8 ans là-bas, après je suis parti un an à Chypre avec Mehdi Mostefa, j'ai joué à Paphos, après j'ai bourlingué en France, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai joué dans la 5e division en France, 4e division, j'ai eu beaucoup de mal à remonter la pente, et après il y a 2 ans de là j'étais en national, j'ai fait un petit parcours en Coupe de France qui a pu mettre un petit peu de lumière sur moi, alhamdoulilah, et l'année dernière j'ai signé au MCO, et aujourd'hui voilà, j'enchaîne les matchs, continue à jouer, donc j'essaye de faire du mieux que je peux, et Inch'Allah, l'équipe nationale, un de ces 4, Inch'Allah, c'est l'objectif final, Inch'Allah.
Après avoir fait toutes vos classes au Paris Saint-Germain, pourquoi vous n'avez pas réussi à vous imposer en équipe pro?
Ah, ils m'ont pas fait signer pro là-bas au PSG, c'est très difficile hein, de signer pro là-bas, malheureusement. Après, j'avais rien du tout, donc j'ai signé un an à Chypre. Voilà, en tant que doublure dans un bon club qui venait de monter, Paphos FC, ils jouent avec des champions aujourd'hui. Et c'est le football, hein. J'ai signé qu'un an, malheureusement. Après, ils m'ont pas reconduit. Et là, c'était un petit peu la descente. C'était compliqué, mais Mektoub, il faut jamais lâcher la résilience. Et alhamdulillah, aujourd'hui, ça va mieux. Et voilà, on est ambitieux, on essaie d'aller le plus haut possible, Inch'Allah.
Saviez-vous qu'au Paris Saint-Germain, il y a eu avant vous un gardien de but algérien, Mohamed Benhamou?
Ouah, mais j'étais jeune, moi. Je sais pas en quelle année c'était, mais j'étais même pas né, donc je l'ai pas connu. Je sais pas si j'étais né. Mais ouais, j'avais 3-4 ans, donc j'ai pas connu, malheureusement. Mais ouais, y a pas eu beaucoup de gardiens algériens.
Racontez-nous comment vous avez atterri au Mouloudia d'Oran.
Bah, je l'ai dit, alhamdoulilah, j'ai pu mettre un petit peu de lumière sur moi, on va dire, entre guillemets, avec le parcours en Coupe de France au FC Rouen. Et on m'a posé des questions, on m'a demandé mes ambitions. Moi, j'ai dit, mes ambitions, c'est la sélection. C'est pas vouloir brûler les étapes ou quoi, c'est quelqu'un, et on doit être ambitieux. Un joueur qui est pas ambitieux, c'est un joueur qui est mort, il va aller nulle part. Donc, il faut tout le monde, on doit avoir de l'ambition. Et donc, ça a fait un petit peu de bruit en Algérie, et puis j'ai le MCO qui m'a contacté, et je savais que c'était un grand club, avec une énorme histoire, et donc moi j'ai dit oui direct pour venir tenter voilà, d'approcher la sélection, Inch'Allah.
En évoquant la sélection nationale, est-ce que vous êtes déçu de ne pas avoir été convoqué, que ce soit avec les A ou les A'?
Non, Merlich, c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis pas appelé. Inch'Allah, un jour, je serai appelé. Il faut faire petit à petit. Il faut pas être pressé. Il y a des étapes à passer. L'année dernière, j'avais pas trop joué, donc c'était difficile de me montrer. Là, pour l'instant, alhamdoulilah, Inch'Allah, que ça continue. J'enchaîne les matchs. Donc voilà, moi, je vais essayer de montrer pour essayer d'atteindre les A' en premier. Voilà, et le plus rapidement possible. Après, si c'est cette année, tant mieux, Inch'Allah. Si c'est pas cette année, peut-être une autre fois. Et peut-être ça n'arrivera jamais, je sais pas. Mais en tout cas, c'est mon objectif, c'est mon ambition. Et Inch'Allah, que ça arrive. Et voilà, c'est mon objectif de vie. Je vis pour ça, moi, c'est tout.
Quelle est votre ambition cette saison avec le Mouloudia d'Oran?
Avec le Mouloudia d'Oran, cette année, c'est de finir le plus haut possible, Inch'Allah. On revient d'assez loin. On sait que c'est un club qui a eu quelques difficultés. On est conscient de tout ça. Mais pour l'instant, ça roule bien. Il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas dire, ah, on va être champion tout de suite, etc., etc. Non, il faut être lucide. Mais par contre, on a le droit d'être ambitieux et de vouloir gagner tous les matchs. De prendre match après match et de finir le plus haut possible, Inch'Allah, c'est tout.
Quel est le secret de ce bon début de saison du Mouloudia d'Oran qui reste sur une belle série de 3 victoires de suite?
Oui, 3e victoire d'affilée, ça fait énormément de bien. Surtout la 2e à l'extérieur, on sait que c'est difficile. Donc voilà, on a un groupe qui est incroyable cette année, on bosse vraiment bien. Le staff, toute l'équipe, la direction, tout le monde va vraiment dans le même sens. Après voilà, on sait qu'il y a des équipes qui ont des matchs en retard, que tout le monde n'est pas au même niveau de nombre de matchs. Mais voilà, nous on prend petit à petit, on essaye de gagner le plus de matchs possible, tous les matchs, match après match. Et alhamdoulilah, pour l'instant, on va dire qu'on est en haut. Eh ben, on va essayer de continuer, Inch'Allah. Inch'Allah, continuer.
Léonard Agoun, maintenant on va mieux le connaître avec vous. Alors, dire qu'il allait quitter le MCO, Léonard Agoun.
Son contrat n'allait pas être renouvelé. D'ailleurs, d'où le recrutement d'un gardien de but, celui du Paradou, Farahi. Puis, le début de saison, il n'a pas été aligné sur les 2 premiers matchs. C'est le jeune Anis Mehdi Mendil. Il devait être le 3e gardien. Et puis, depuis la 3e journée, avec l'arrivée de Garidou, il est en place. Il n'a pas bougé de sa cage.
Merci. Allez, Hamouche, 12h sur Alger 3. C'est l'heure de vous dire au revoir. Vous avez rendez-vous avec le sport à 15h avec Nessima Djaout. Dans quelques instants, vous allez retrouver Siham Bacha. Merci à Ali Hamouche, à Rostom Yahya Sherif, à la réalisation Foued Hamati.
Football Magazine vous a été présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche.